l'immortalité n'est pas la survie de la personnalité mentale après la mort, bien que ce soit vrai aussi, mais la possession éveillée du moi qui est sans mort et sans naissance, et dont le corps n'est qu'un instrument et une ombre. Il y a ici trois affirmations qui ont été l'objet de questions. D'abord, qu'est-ce que la personnalité mentale? Dans chaque être humain, il y a le corps, qui est animé par l'être vital, et qui est gouverné ou partiellement gouverné par un être mental. Ceci est une règle générale. Mais le degré de formation et d'individualisation de l'être mental est très différent suivant les individus. Dans la plus grande masse des êtres humains, le mental est une chose fluide qui n'a pas d'organisation propre et qui par conséquent n'est pas une personnalité. Et tant que le mental est comme ça, fluide, pas organisé et sans vie cohésive propre, ce n'est pas une personnalité et il ne survit pas. Ce qui constituait l'être mental se dissout dans l'état mental quand le corps, la substance qui constituait le corps, se dissout dans la substance physique. Mais dès que l'être mental est constitué, organisé, individualisé, et qu'il devient une personnalité, il ne dépend plus pour son existence du corps, et par conséquent, il lui survit. L'atmosphère mentale terrestre est remplie d'êtres, de personnalités mentales qui vivent d'une façon tout à fait indépendante, même après la disparition du corps, et qui peuvent se réincarner dans un corps nouveau quand l'âme, c'est-à-dire le vrai moi, se réincarne et porte ainsi avec lui le souvenir de ses vies antérieures. Mais ce n'est pas cela que Shri Aurobindo appelle l'immortalité. L'immortalité, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin, qui ne naît pas et qui ne meurt pas, qui est tout à fait indépendante du corps, et qui est la vie du moi. Le moi est l'être essentiel de chaque individualité et n'est pas séparé du moi universel. Il a le sens de l'unité avec le moi universel. En fait, il est une expression personnifiée, individualisée du moi universel. Et cela n'a ni commencement, ni fin, ni vie, ni mort. Cela vit éternellement et c'est cela qui est immortel. Alors, nous devenons immortels quand nous sommes pleinement conscients de ce moi, parce que nous participons à sa vie éternelle et que par conséquent, nous sommes immortels. Mais il y a eu une petite confusion sur ce mot d'immortalité. Et ce n'est pas nouveau, c'est une confusion qui s'est produite très souvent. Quand on parle d'immortalité, au moins ici, la plupart des gens comprennent qu'il s'agit d'une durée indéfinie du corps. Le corps ne peut durer indéfiniment que d'abord, s'il devient pleinement conscient de ce moi immortel et qu'il s'unit à lui, s'identifie avec lui, au point d'avoir la même capacité, la même faculté de transformation constante pour suivre le mouvement universel et qui est une condition absolument indispensable pour la durée. c'est parce que le corps est fixe qu'il ne suit pas le mouvement, qu'il ne peut pas se transformer avec une rapidité suffisante pour être constamment identifié à l'évolution universelle, qu'il se décompose et qu'il meurt. C'est sa fixité, sa dureté, son incapacité de se transformer qui le met dans l'obligation d'être détruit pour que la substance retourne au domaine général de la substance physique et pour qu'il se reforme dans des formes nouvelles pour être apte à progresser encore. Mais quand on parle de cette immortalité, on spécifie que c'est l'immortalité physique, et il est bien entendu que jusqu'à présent, elle n'a pas encore été réalisée. Sri Aurobindo dit que c'est possible, et même que cela arrivera, mais il y met comme condition que le corps soit supramentalisé, et qu'il participe aux qualités de l'être supramental, qui sont des qualités de plasticité et de transformation constante. Et quand Sri Aurobindo écrit que le corps n'est qu'un instrument et une ombre. Il parle du corps tel qu'il est maintenant et qu'il sera encore pendant fort longtemps, probablement. Il n'est que l'instrument du moi, l'expression très inadéquate de ce moi, et une ombre, quelque chose d'imprécis et d'obscur en comparaison avec la lumière et la précision du moi éternel. Comment cette ombre et cet instrument peut servir au développement de l'art et comment en cultivant l'instrument, on peut être utile aux vies postérieur. Est une question qui ne manque pas d'intérêt. Chaque fois que l'âme s'incarne dans un corps nouveau, elle vient avec l'intention de faire une expérience nouvelle qui l'aidera dans son développement et rendra sa personnalité plus parfaite. C'est ainsi que de vie en vie, l'être psychique se forme pour devenir une personnalité tout à fait consciente et indépendante qui, lorsqu'elle est arrivée au maximum de son développement, peut choisir non seulement le temps de son incarnation, mais le lieu, le but et l'œuvre accomplie. Sa descente dans un corps physique est nécessairement une descente dans l'obscurité, l'ignorance, l'inconscience. Et pendant fort longtemps, elle doit travailler simplement pour amener un peu de conscience dans la matière du corps avant qu'elle puisse s'en servir pour faire l'expérience qu'elle est venue faire. Ainsi, si par une méthode raisonnée, clairvoyante, nous cultivons le corps, nous aidons à sa croissance, à son progrès et à son illumination. La culture physique consiste à mettre de la conscience dans les cellules du corps. On le sait ou on ne le sait pas, mais c'est un fait. Quand nous nous concentrons pour faire agir nos muscles en accord avec notre volonté, quand nous faisons effort pour assouplir nos membres, pour leur donner une agilité, ou une force, ou une résistance, ou une plasticité qu'ils n'ont pas naturellement, nous infusons dans les cellules de ce corps une conscience qui ne s'y trouvait point, et ainsi nous en faisons un instrument homogène, réceptif et progressif dans son action. C'est ça qui est l'importance capitale du développement physique. Naturellement, ce n'est pas la seule chose qui amène la conscience dans le corps, mais c'est une chose qui agit d'une façon tout à fait générale, ce qui est rare. Je vous ai dit plusieurs fois déjà que l'artiste infuse une conscience très grande dans ses mains, l'intellectuel dans son cerveau, mais c'est pour ainsi dire local. Tandis que la culture physique, c'est une action généralisée. Et quand on voit les résultats absolument merveilleux de cette culture, quand on observe jusqu'à quel degré le corps peut se perfectionner, alors on comprend à quel point cela peut être utile à l'action de l'être psychique qui est venu dans cette matière et qui, naturellement, quand elle est en possession d'un instrument organisé, harmonisé, plein de force, de souplesse et de possibilités, ça favorise considérablement son corps. Je ne dis pas que les gens qui font de la culture physique le font dans ce but-là, parce que il y en a très peu qui savent que tel est le résultat, mais qu'ils le sachent ou qu'ils ne sachent pas le résultat comme ça. Et d'ailleurs, si on est un peu sensitif, quand on voit bouger le corps d'un être qui a fait de la culture physique raisonnée et méthodique, on voit une lumière, une conscience, une vie qui n'est pas dans les autres. Il y a beaucoup de personnes qui voient les choses d'une façon tout à fait extérieure, qui disent ces ouvriers, par exemple, pour donner un exemple, qui sont obligés de faire des travaux de force, et qui, par la nécessité de leur métier, apprennent à porter des poids considérables. Eux aussi se font des muscles. Et au lieu de passer leur temps comme des aristocrates à faire des exercices qui n'ont pas un résultat extérieur très utile, au moins, eux, ils produisent quelque chose. C'est une ignorance. Parce qu'il y a une différence essentielle entre des muscles qui ont été développés par une utilisation spéciale, localisée illimité et des muscles qui sont tous cultivés volontairement et harmonieusement dans un programme d'ensemble qui ne laisse rien sans travail et sans exercice. Les gens, comme les ouvriers, les paysans, qui ont une occupation spéciale, qui développent certains muscles, ont toujours une déformation professionnelle. Et ça n'aide d'aucune façon leur progrès psychique, ça n'aide d'une façon spéciale à leur progrès psychique, parce que la vie tout entière aide nécessairement au progrès psychique, mais d'une façon si inconsciente et si lente que ce pauvre psychique doit revenir encore et encore et encore et indéfiniment pour arriver à ses fins. Par conséquent, nous pouvons dire, sans risquer de nous tromper, que la culture physique, c'est la sadhana du corps. Et que toute sadhana est nécessairement à hâter l'arrivée au but. Plus on le fait consciemment, plus le résultat est prompt et général. Mais même si on le fait sans voir plus loin que le bout de ses doigts ou de ses pieds ou de son nez, on aide au développement total. Pour finir, on peut dire que toute discipline, quelle qu'elle soit, que l'on suit rigoureusement, sincèrement, volontairement, est une aide considérable pour que la vie terrestre atteigne plus rapidement son but et se prépare pour recevoir la vie nouvelle et hâte l'arrivée de cette vie nouvelle. Et le contact avec la réalité supramentale. Le corps physique tel qu'il est n'est vraiment qu'une ombre très défigurée de la vie éternelle du moi, mais ce corps physique est progressif et à travers chaque formation individuelle, la substance physique progresse et un jour, elle sera capable d'établir un pont entre la vie physique telle que nous la connaissons et la vie supramentale qui se manifestera.